Este informativo da Radio França.
Look, Paris Live with me, today's headlines.
Accent du monde. Philippe Le Caplain.
Bonsoir et bienvenue dans Accent du Monde, le premier de l'année. Autant vous dire que nous vous souhaitons une bonne santé et en espérant que ce vœu ne soit pas simplement rhétorique cette année. Très belle année à vous tous. Bonne année, Nedy Ribeiro.
Bon anno.
De la rédaction Lusophone pour nous parler des crues à São Tomé et Príncipe, les pires des 30 dernières années, à tel point que le pays fait appel à l'aide internationale pour s'en sortir. Pour la rédaction en anglais, Jan van der Meijde, bonsoir.
Good evening.
Concernant la demande de plus en plus importante de lithium, ce composant indispensable pour les piles des voitures électriques. Et puis, dans ce studio, Raphaël Moran de la rédaction en espagnol.
Buenas noches,
pour
feliz
un bilan
año.
Des 6 premiers mois de l'Assemblée constituante chilienne, avec en toile de fond l'arrivée du nouveau président de gauche, Gabriel Boric. Avant cela, ce qui fait la une de l'actualité, bien évidemment, et une fois de plus, c'est la flambée mondiale du variant Omicron. 6 semaines après son identification en Afrique du Sud, il se transmet beaucoup plus rapidement que le variant auparavant dominant, le Delta, et semble entraîner globalement des formes moins graves de la maladie. Cette épidémie plus contagieuse et moins sévère donc provoque l'instauration de restrictions un peu partout dans le monde. Il faut dire, Nedy Ribeiro, que Omicron touche désormais au moins 128 pays dans le monde.
C'est tout à fait cela, Philippe. Le variant Omicron, bien plus contagieux que les plus précédentes mutations, continue à se diffuser comme une traîne de poudre et désorganise de nombreux secteurs, même s'il paraît moins dangereux. En France, l'un des pays les plus touchés de l'Europe, les députés ont voté en première lecture cette semaine le projet de loi transformant le pass sanitaire en pass vaccinal. Le texte doit désormais être examiné par le Sénat en début de semaine prochaine.
Mais la France n'est pas le premier pays en Europe à appliquer ce principe, hein, Nelly.
Oui, car certains vont même plus loin encore. L'Autriche est devenue le premier pays de l'Europe à rendre le vaccin obligatoire pour l'ensemble de la population à partir de 14 ans. Et l'Italie vient d'instaurer l'obligation vaccinale pour les plus de 50 ans. Pas d'obligation vaccinale au Portugal, mais le Premier ministre António Costa a décidé de prolonger les restrictions pour les voyageurs et le télétravail. Même vaccinés, les voyageurs arrivant en Portugal par avion continueront d'avoir présenté un test négatif au Covid-19 au moins jusqu'au 9 février. Celso Cunha, professeur et chercheur à l'Institut d'hygiène et des médecines tropicales à l'Université Nova de Lisbonne, prétend que le plus important à ce stade-là, c'est de continuer à vacciner toutes les personnes avec une troisième dose. Je vous propose de l'écouter.
Se for possível administrar uma terceira dose a todas as pessoas que já tiveram duas doses, a vacina de primeira geração continua a ser a maneira mais eficaz.
Quelles sont les explications de ce professeur?
Il dit que à l'heure actuelle, il est urgent d'administrer la dose de rappel à toutes les personnes qui ont déjà reçu les deux doses, arguant que la vaccination est jusqu'à présent le seul moyen d'éviter les maladies graves et la mort par coronavirus. D'autre part, il dit que bien que certains laboratoires envisagent déjà de créer un vaccin contre le variant Omicron, cela pourrait ne pas être nécessaire car on ne sait pas ce qui se passera avec ce variant dans les prochains mois.
Au chapitre des nouvelles restrictions sanitaires, il y a également, Jan van der Meijde, plusieurs villes du centre de la Chine qui sont concernées, puisqu'il y a là-bas une augmentation du nombre de cas de Covid, et c'est plus particulièrement vrai dans la province du Henan, pas loin de Pékin.
Oui, les autorités tentent de prévenir la propagation de coronavirus avant les Jeux olympiques et le nouvel an lunaire, mois de février, qui est une période de déplacement de masse dans le pays. Le Henan, la province, a enregistré 64 cas de transmission locale présentant des symptômes confirmés mercredi contre 4 seulement la veille, selon les données officielles publiées hier. Si ces chiffres restent faibles par rapport à ceux de beaucoup d'autres pays comme la France, et même si aucun cas de transmission du variant Omicron n'a été observé dans la province, plusieurs municipalités ont imposé de nouvelles mesures visant à limiter les déplacements et les activités économiques. Les autorités à Pékin sont inquiètes et veulent stopper net le moindre signe d'apparition de foyer épidémique à l'approche des Jeux olympiques qui débuteront le 4 février à Pékin dans Hebei, la province voisine de Henan.
Et d'autant que l'inquiétude concerne l'arrivée peut-être d'un nouveau variant. En tout cas, c'est l'inquiétude émise cette semaine par l'Organisation mondiale de la santé, Nelly Ribeiro.
En effet, Philippe, une responsable des situations d'urgence à l'Organisation mondiale de la santé a indiqué que la montée fulgurante du nombre de contaminations et le taux d'infection pourraient être susceptibles de générer un nouveau variant, affirmant que l'Omicron est mortel. Mais il y a aussi des bonnes nouvelles. Selon certains scientifiques, bien que le variant se propage dans le monde, il semble moins pathogène que ce que l'on craignait initialement et fait naître l'espoir que la pandémie pourrait être surmontée.
Concernant l'Afrique du Sud, maintenant, quelle est la situation ?
Le premier pays où le variant Omicron a été signalé, le nombre de nouvelles contaminations diminue depuis quelques jours. L'année 2022 sera-t-elle l'année de retour à la vie d'avant ? Tiago Correia, spécialiste portugais de la santé publique internationale, reste prudent en affirmant qu'une éventuelle fin de la pandémie ne signifiera certainement pas la fin du virus.
Uma enorme expectativa de que em 2022 a circulação deste vírus, deste coronavírus, deixe de provocar tantas disrupções.
Aidez-nous à comprendre ce qu'il dit.
Il reconnaît qu'il y a une énorme attente qu'en 2022 la circulation de ce coronavirus cessera de causer autant de perturbations comme ça a été le cas de ce deux dernières années. Cependant, dire que ce sera la fin de la pandémie ne signifie pas la fin de ce virus, mais que la circulation du virus peut avoir des impacts d'une portée moindre sur notre vie collective. Cela conduira à moins de maladies graves et à moins de lits occupés dans les hôpitaux.
Alors, cette vague épidémique du variant Omicron n'épargne pas non plus l'Amérique latine. L'Argentine, avec ses 45 millions d'habitants, a dépassé hier la barre des 100 000 nouveaux cas. Les centres de tests sont littéralement débordés, Raphaël Moran.
Oui, la courbe des cas de Covid augmente de manière exponentielle. En Argentine, c'est le plein été, beaucoup de gens sont en vacances, à la plage. Il y a sur les réseaux sociaux beaucoup d'images qui circulent de foule, sans aucun masque. Le pays avait jusque-là réussi à juguler l'épidémie et là, il est vraiment submergé par le nombre de cas et il y a de plus en plus de gens en thérapie intensive dans les hôpitaux, mais on n'atteint pas encore les records d'il y a quelques mois. Alors, depuis le 1er janvier, les autorités argentines exigent la vaccination pour aller danser ou assister à des événements très fréquentés, mais pas de nouvelles restrictions sanitaires pour le moment. Il faut savoir que le confinement a été très précoce et très long en Argentine. Le pays n'a rouvert ses frontières aux étrangers que le 1er novembre dernier, après 18 mois de fermeture tout de même. Par ailleurs, le nouveau variant Omicron est statistiquement moins mortel que les premières souches de Covid-19 et le pays affiche un taux de vaccination de 72%, c'est assez élevé.
Et du coup, les médecins considèrent que l'Argentine pourrait atteindre la fameuse immunité collective.
Oui, que tout le monde espère, que tout le monde attend. C'est ce que nous a expliqué le docteur Guillermo Weisburg, épidémiologiste argentin, joint par notre rédaction cette semaine. On l'écoute.
Es demasiado prematuro sacar alguna conclusión. Yo adscribo a las opiniones de diversos épidémiologues.
Alors, est-ce qu'il est optimiste ?
Oui, il dit qu'il est encore un peu tôt pour parler de fin de l'épidémie, mais comme d'autres spécialistes, il cite Anthony Fauci, le coordinateur de la lutte contre le Covid aux États-Unis, et il explique que nous allons peut-être atteindre l'immunité de groupe, en tout cas en Argentine, si on ajoute le nombre de vaccinés à la population qui sera immunisée après avoir contracté la souche Omicron. C'est un peu ce qu'a dit Olivier Véran, le ministre français de la Santé, il y a quelques jours. Plusieurs épidémiologistes interviewés dans la presse argentine soulignent aussi que lorsqu'un virus est plus contagieux, en général, il est moins mortel. Et c'est précisément le cas du variant Omicron. Et certains considèrent que le Covid pourrait même devenir endémique, c'est-à-dire qu'il devienne une maladie saisonnière, un peu comme la grippe, très contagieuse, qui ressurgit régulièrement, mais qui est moins mortelle que les premières souches de Covid. C'est une petite lueur d'espoir, Philippe, mais il faut être prudent parce qu'on n'est pas au bout de nos surprises avec l'épidémie
bien
de
évidemment.
Covid.
Yann Van Der Meyde, retournons maintenant aux origines de ce fameux virus, coronavirus Covid-19. En sait-on plus ? Est-ce qu'il y a du nouveau ?
Alina Chan, biologiste au Broad Institute à Boston, Cambridge, a publié le mois dernier un livre qui s'appelle Viral. Il s'agit d'une enquête sur les origines du SARS-CoV-2. Elle pointe les faiblesses de la thèse de l'origine animale, mais sans toutefois l'écarter. Surtout, elle reconstitue la séquence des éléments qui rendent plausible l'hypothèse d'une fuite accidentelle dans un laboratoire. Par contre, elle n'a pas encore trouvé une preuve solide pour affirmer que le virus vient d'un laboratoire. Mais elle a aussi parlé sur les mutations de ces virus. Écoutons-la.
Pandemic is not a situation where the rich countries can just take care of themselves and let all the developing nations suffer. Because as long as there are new variants emerging,
que dit Alina Chan?
Eh bien, elle dit que pour elle, les pandémies constituent une situation où les pays riches peuvent se prendre en charge, tandis que les pays en voie de développement souffrent. Tant que de nouvelles variantes émergent dans le pays en voie de développement, les habitants de pays riches se retrouvent aussi infectés. Elle espère donc que cette pandémie donnera une leçon sur le partage des ressources plus nécessaire que jamais dans ce type de situation sanitaire.
Et en France, il y a cette polémique hein, quand le président de la République a dit vouloir emmerder les non-vaccinés. Le mot est fort, emmerder, c'est un gros mot. Et aujourd'hui, il a donc répondu aux critiques.
On peut s'émouvoir sur des formes d'expression qui paraissent familières, que j'assume totalement. Moi, je m'émeus de la situation dans laquelle nous sommes. La vraie fracture du pays est là. Quand certains font de leur liberté, qui devient une irresponsabilité, un slogan, non seulement ils mettent en danger de la vie des autres, mais ils restreignent la liberté des autres. C'est un mouvement complètement européen. Et qui fait quoi? Qui met des restrictions sur les personnes qui ne sont pas vaccinées.
Voilà, des propos du président de la République plus mesurés, plus ronds, on va dire. Raphaël Morana, à la rédaction Amérique latine, comment vous avez traduit le mot « emmerder » ?
Bah, ce n'était pas évident, on était bien embêtés, puisque bah, c'est quand même un mot très spécifique aux Français. Certains médias ont traduit par « fastidiar », qui se traduirait en français par « embêter », donc c'est un peu sous-traduit.
D'autres médias ont... C'est un peu le cas chez les Portugais, hein, également.
Oui, c'était aussi, là, oui, c'était aussi difficile. Oui, « embêter », ça veut « chetiar ».
Voilà. C'est plus mesuré, c'est plus poli.
Ouais, c'est plus poli.
Donc voilà. Difficile de traduire l'énervement et la volonté d'Emmanuel Macron d'en dire plus. Quoi.
Du coup, d'autres médias ont traduit par joder, qui est quand même un petit peu plus vulgaire et qui correspond plus au registre de langage hein, de ce qu'a dit Emmanuel Macron.
En anglais, comment est-ce que
en
ça
anglais,
se passe?
En anglais, c'est bien piss off. Et ça, vraiment très rude de dire ça pour un président de la République.
C'est comme ça que vous avez traduit les propos du président français sur votre antenne.
Oui, les médias anglais, certainement les médias comme le Daily Mail, plus public, ils ont traduit comme ça, oui.
Donc, comme quoi ce variant Omicron n'a pas fini de susciter des surprises, qu'il s'agisse du point de vue sanitaire, social, économique et, on le voit, politique. Vous écoutez Accent du Monde sur Radio France Internationale.
This is Radio France International.
Paris, Arachi,
Accent du Monde. Philippe Le Caplain.
Et c'est donc l'actualité vue par les rédactions langues étrangères de RFI avec des sujets particulièrement traités par les uns et par les autres. Pour ce qui est de la rédaction lusophone, dans votre zone d'écoute, il y a Sao Tomé et Principe. Et il faut dire que les derniers jours de l'année 2021 ont été marqués par d'importantes inondations, les pires crues des 30 dernières années. Officiellement, il y a 2 morts, 4 disparus et une vaste traînée de destruction. Le gouvernement a déclaré l'état d'urgence dans cet archipel équatorial situé au large de l'Afrique pour une période de 15 jours. Et preuve que la situation est grave, Neddy Ribeiro. Sao Tomé et Principe appellent à l'aide internationale.
En effet, Philippe, ce petit pays considéré comme l'un des plus pauvres au monde et qui a vu l'aide internationale se réduire ces 2 dernières années en raison de l'impact de la crise sanitaire a été sécué par les pires crues des 30 dernières années. Le président de Sao Tomé et Principe, Carlos Gilanov, a fait appel à l'esprit de résilience et de solidarité des Saint-Toméens pour soutenir les personnes touchées par les fortes pluies qui, a-t-il dit, ont laissé l'île principale dans un scénario d'après-guerre et un niveau élevé de destruction. Le gouvernement de Sao Tomé a demandé à la communauté internationale de l'aider à faire face aux difficultés qui vit la population. La ministre des Affaires étrangères de Saint-Thomé, Edith Tenjoa, a rencontré le corps diplomatique accrédité dans le pays pour demander de l'aide.
Pedir, dentro daquilo que é possível, no apoio dos nossos parceiros, quer bilaterais e multilaterais, ver como é que juntos nós podemos debelar esta situação que, a verdade,
c'est donc la ministre des Affaires étrangères de São Tomé et Príncipe qui parle.
Oui, Edith Tenjoa dit que le pays a demandé, dans la mesure du possible, le soutien des partenaires tant bilatéraux que multilatéraux pour qu'ensemble ils trouvent une solution permettant de résoudre cette situation qui affecte la population de tout le territoire.
Donc les dégâts sont considérables, à tel point que les autorités estiment que la reconstruction de certaines infrastructures, comme des ponts, bien que ça prendra beaucoup de temps.
Oui, Philippe, l'impact est catastrophique. Plusieurs ponts se sont effondrés. Il y a des routes coupées et des populations isolées sans nourriture, lumière, eau, d'eau potable. La sœur Lucie Candil, qui est aussi coordinatrice du projet de développement global du district de Neves, une des villes la plus touchée, nous a décrit la situation.
O nosso problema grave foi as condutas da água. A água potável que abastecia toda a cidade foi toda destruída. Portanto, estamos sem água e não sabemos quando.
Quel est son témoignage?
Lucia Cândido diz que as conduites d'eau potable que alimentaient toute la ville de Neves ont été complètement détruites. Il n'y a pas d'eau. Les gens en prennent celle de la rivière. Cette religieuse rappelle qu'il y a des endroits isolés et que plusieurs ponts ont été totalement détruite. Elle reconnaît que les dégâts sont d'une telle portée que les autorités ne seront pas en mesure d'y répondre. Ainsi, l'aide internationale est urgente. Cette catastrophe naturelle survient à un moment où les chiffres du Covid-19 sont en augmentation et le pays où la présence du variant Omicron vient d'y être confirmée. Le pays qui a décrété l'état de calamité, Saint-Thomé-et-Principe, ce petit pays de moins de 200 000 habitants au large du Gabon, dont l'économie est fortement polarisée par le secteur de l'agriculture et la pêche, dépend aussi du tourisme, fortement touché par la crise de Covid.
Nédi Ribeiro de la rédaction Lusophone de Radio France Internationale. Intéressons-nous maintenant au Chili, ce pays d'Amérique du Sud où souffle un vent de changement puisque le pays vient d'élire le président le plus jeune de son histoire. Il n'a que 35 ans, il s'appelle Gabriel Boric et les Chiliens sont par ailleurs en pleine rédaction d'une nouvelle constitution. C'était d'ailleurs l'une des revendications des grands mouvements sociaux d'il y a 2 ans. On en parle avec vous, Raphaël Moran, journaliste à la rédaction Amérique Latine, puisque vous étiez au Chili pour couvrir ce scrutin et pour couvrir donc ces travaux de la constituante. Cette nouvelle assemblée vient de renouveler d'ailleurs sa présidence, l'occasion de faire un bilan donc de la situation qui prévaut actuellement au Chili.
Oui, et le président élu Gabriel Boric a eu cette phrase assez forte pendant sa campagne. Il a déclaré que le Chili a été le berceau du libéralisme, du néolibéralisme, et qu'il sera également sa tombe. C'est en tout cas sa volonté, lui, son programme politique. Donc vous l'avez compris, une partie de la société chilienne veut changer de modèle de société, de modèle économique. 155 députés constituants planchent depuis 6 mois maintenant sur un nouveau texte, une nouvelle constitution pour remplacer celle qui a été rédigée principalement sous la dictature d'Augusto Pinochet. Et ce texte, qui est encore en vigueur aujourd'hui, consacre une place centrale à la propriété privée, au libre marché, au secteur privé. Donc après les grandes manifestations de 2019 pour la justice sociale, les Chiliens ont décidé de réécrire une nouvelle constitution pour faire plus de place à l'équité, faire de l'eau, par exemple, aujourd'hui privatiser un bien commun, instaurer un droit à la santé universelle ou au logement. Par exemple, les parlementaires constituants réfléchissent également au futur régime institutionnel. Beaucoup d'entre eux veulent passer du régime présidentiel actuel à un régime semi-présidentiel. Ils veulent tout réinventer, en somme.
C'est un vrai défi d'arriver à un consensus, d'autant que cette assemblée constituante est très fragmentée, également assez exemplaire en termes de représentativité. C'est la première constituante paritaire.
Oui, ça n'est jamais arrivé dans le monde. Et ça, c'est grâce à un mécanisme électoral assez complexe et qui fait qu'il y a vraiment autant d'hommes que de femmes qui siègent dans cette assemblée. Il y a aussi des sièges réservés pour les peuples originaires, comme les Mapuches, qui ont été très marginalisés historiquement dans l'histoire du Chili. Et des députés qui représentent la diversité d'âge, de profession, d'orientation sexuelle aussi dans cette convention. Et politiquement, bien sûr, les partis traditionnels, dont la droite notamment, sont minoritaires. C'est la première première fois que ça arrive. Et ce sont des indépendants, des gens de la société civile qui sont majoritaires, comme Maria Elisa Quinteros, la nouvelle présidente de cette constituante qui vient d'être élue. On l'écoute.
Represento también el sentir de mucha gente que es muchas veces un desconocido, una desconocida, un NN que aparece de repente y ocupa estos cargos.
Que dit Maria Elisa Quinteros?
Eh bien, elle succède à Elisa Loncón, qui était une activiste mapuche, qui est arrivée au terme de son mandat. Et donc, Maria Elisa Quinteros est une spécialiste en santé publique et elle est féministe aussi, non encartée, élue grâce aux assemblées de quartier. Ce qu'elle explique, c'est qu'elle représente à travers son programme et puis son statut, son profil politique, tous ces anonymes, ces inconnus qui ont été portés à des postes de pouvoir au Chili assez soudainement, de manière un peu inattendue, pour moderniser la société, portée grâce aux mouvements sociaux justement auxquels vous faisiez référence d'il y a 2 ans. Et son vice-président aussi a un petit peu le même profil. Il vient de la société civile, c'est un jeune médecin, 33 ans, homosexuel et activiste des droits LGBT.
Quels sont les défis de cette nouvelle présidence?
Alors, en plus de dégager une majorité sur les sujets qu'on a évoqués, il faut tenir des délais. Les constituants travaillent maintenant depuis 6 mois, il leur en reste 3. Leur mandat peut être renouvelé de 3 mois. Et le texte sera ensuite soumis aux électeurs chiliens par référendum via un vote obligatoire. Et là encore, c'est important parce qu'aux dernières élections, même si la gauche qui soutient cette nouvelle constitution a gagné, il y a une forte abstention. Et le camp de la droite chilienne, la droite radicale, s'est fortement mobilisé. Et ce secteur-là, au Chili, il regroupe des nostalgiques de la dictature qui étaient contre l'écriture d'une nouvelle constitution et également des partis attachés au modèle néolibéral par conviction ou par intérêt. Les constituants chiliens devront donc faire un gros travail de pédagogie pour convaincre également les électeurs.
Voilà, un pays qui tourne une importante page de son histoire. C'était avec Raphaël Moran de la rédaction en espagnol de RFI. Tout autre chose à présent. Pour faire les piles des voitures électriques, il faut bien des composants, dont le lithium. Ce mois-ci, le développeur de lithium, qui est Vulcan Energy Resources, a reçu 5 nouvelles licences d'exploitation de lithium dans la vallée du Rhin, c'est le long de la frontière franco-allemande, ce qui doit permettre d'approvisionner Volkswagen, Renault et Stellantis, c'est-à-dire Peugeot Citroën. Jan van der Meij de la rédaction anglophone, cette décision marque une nouvelle étape de la dépendance aux combustibles fossiles. Mais dans quelle mesure l'utilisation du lithium est-elle écologique vraiment?
Le lithium est un métal le plus léger au monde. Et sa composition le rend idéal pour les batteries les plus petites, mais plus puissantes que leurs concurrents plus lourdes au nickel-cadmium, par exemple, et au plomb. La Commission européenne a proposé en juillet de l'année dernière le Green Deal européen, qui prévoit une réduction de 100% des émissions de CO2 d'ici 2035, ce qui rendait impossible la vente de nouveaux véhicules fonctionnant en combustible fossile. L'accent est désormais mis sur les voitures électriques qui sont alimentées par des batteries au lithium.
Alors, ce lithium, justement, quelles sont les réserves mondiales? Est-ce qu'il y en aura suffisamment?
Voilà, l'Agence internationale de l'énergie a ajouté dans un rapport récent que la croissance des véhicules électriques pourrait voir la demande de lithium augmenter de plus de 40 fois d'ici 2040. L'appétit croissant pour le lithium peut conduire à une exploitation minière imprudente à une échelle beaucoup plus grande, cela de concert avec l'avancée de la voiture électrique. Mais partout, on voit de plus en plus de résistance de communautés protestant aux activités des entreprises minières de lithium. C'est notamment le cas au Chili et en Argentine, qui détient les plus grandes réserves du monde. Les gens ont exprimé leur inquiétude. De même qu'au Portugal, les habitants de Covas do Boroço, qui abrite la plus grande réserve de lithium d'Europe, pensent que l'exploitation entraînera la déforestation, la pollution d'air, et la contamination de l'eau et le bruit.
Comment ces inquiétudes s'expriment-elles d'ailleurs?
Il y a des manifestations, par exemple au Tibet, qui est occupé par la Chine. Ces démonstrations n'ont servi à rien, mais en Serbie, par exemple, les géants miniers Rio Tinto a mis un terme aux opérations prévu de son projet de lithium de Jadar. J'ai parlé à Célina Mattea de l'ONG Transport et Environnement. Elle m'a dit que l'Union européenne est en train de travailler sur des textes de loi en vue d'activités minières responsables.
Mining companies have had a license to operate for many years without really being in the public eye or having a lot of scrutiny. And it's important that they change the way they operate, taking into account
Alors, que vous a dit Célina Mattea de Transport et Environnement ?
Elle a dit que les sociétés minières détiennent des permis depuis de nombreuses années sans vraiment se faire remarquer du public ou faire l'objet d'un examen minutieux. Selon elle, les mines changeront leur façon de fonctionner en tenant compte de tout l'impact qu'elles peuvent avoir tout au long de leur opération. Par exemple, est-ce que la population locale a des priorités autres que le développement minier dans une région, ou bien a-t-elle découvert que son eau n'est plus potable? Sa conclusion, les sociétés minières doivent accepter le changement et le cas échéant, elles préconisent les pénalités à leur encontre.
Et vous le mentionniez, Jean Van der Meij, de la rédaction anglophone de RFI. Du lithium, il y en a beaucoup en Amérique du Sud. Vous citiez le Chili, l'Argentine. Il y a également la Bolivie, Raphaël Morane.
Oui, la Bolivie qui possède des réserves de lithium gigantesques. Et l'État en a bien conscience. Il tente de mettre en place une filière d'exploitation du lithium, d'exploitation industrielle. Mais là encore, ce sont les grands groupes européens ou occidentaux qui dominent ça. Et les États, les pays qui ont des réserves de lithium n'ont pas forcément les connaissances et les capitaux pour mettre en place une filière et aller au-delà de la simple exploitation, de la simple extraction.
Donc une richesse qui leur échapperait.
Un petit peu, en quelque sorte.
Alors qu'en fait, la plus-value, elle est sur la transformation, elle n'est pas sur l'extraction.
Voilà, pour la fabrication des batteries.
Donc c'est un vrai souci. Est-ce que dans la zone lusophone, il y a des pays qui auraient du lithium, à votre connaissance, Nelly Rivero, et qui peuvent espérer en tirer profit au cours des prochaines années avec le développement de la voiture électrique ?
Comme Yann a dit, au Portugal, oui, il y en a. En Afrique lusophone, je n'ai pas la connaissance. Mais au Portugal, ça existe, oui.
Donc il y a au moins à cet endroit-là une richesse. Merci pour ces commentaires et ces éclairages à vous tous. Et je propose de terminer cet accent du monde avec de la musique chilienne. On a beaucoup parlé du Chili, donc avec les bouleversements qu'il y a en ce moment. L'occasion de transporter nos oreilles, on va dire, là-bas. Alors le titre, enfin l'auteur, c'est Chico Trujillo.
Et Chico Trujillo.
Voilà. Et alors ça, c'est le nom du chanteur. Et le titre, c'est Pájaro Zinzongle. Ça vous parle, Raphaël Morane ?
Je peux le voir comment c'est écrit.
on va l'écouter et puis je vais vous montrer la pochette du disque.
Cantar del monte en la fama con gona, se oye su lamento.
Chico Trujillo, vous connaissez Rafael Hermann?
Bien sûr, c'est un des groupes de cumbia chiliennes les plus connus, qui viennent en France par exemple, chaque année on peut les écouter. Et très très populaire, très bonne sélection Philippe.
En fait c'est celle de Jean-Philippe Turi qui réalisait ce soir Accent du Monde pour Radio France Internationale. Dans quelques instants, un nouveau journal.
Une semaine d'actualité.